Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 23 juillet 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a reçu aujourd'hui, vendredi 23 juillet, la deuxième dose du vaccin iranien. Et à cette occasion, il a en fait appelé à appuyer fortement la production du vaccin iranien. L'Iran a annoncé l'inauguration d'un nouveau terminal pétrolier pour exporter son brut à partir d'un port sur la mer d'Oman et non plus juste à partir du golfe Persique. La défense aérienne syrienne a abattu jeudi des missiles israéliens au-dessus de la province centrale de Homs. Moscou dit avoir des informations sur les liens entre les États-Unis et les terroristes en Afghanistan, et l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation à la suite des révélations selon lesquelles le Maroc aurait eu recours au logiciel israélien pour espionner des responsables citoyens algériens. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique, a reçu aujourd'hui, vendredi 23 juillet, la deuxième dose du vaccin iranien. L'honorable Ayatollah Khomeini a en fait réitéré son appel à renforcer de plus en plus la production du vaccin iranien. Et à cette même occasion, il a en fait appelé tous les organes concernés à en fait fournir leur plein soutien à la production du vaccin, à la production locale du vaccin iranien. À cette même occasion, l'honorable Ayatollah Khomeini a fait allusion aux événements qui se sont produits dans la province du Khuzestan. Le guide suprême de la révolution islamique a fait allusion aux actes de dévouement et de sacrifice de la population de la province du Khuzestan pendant les 8 années de la défense sacrée, les populations de la province du Khuzestan qui étaient aux premières lignes de combat. Ces populations ne doivent pas être prises au problème et si les recommandations étaient suivies à temps, on n'en serait pas témoin d'une telle situation, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Les organes du gouvernement actuel sont en train en fait de travailler actuellement et le prochain gouvernement qui sera mis en place suivra sérieusement avec le sérieux en fait de travaux, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. Le guide suprême de la révolution islamique a appelé également à la vigilance face au complot de l'ennemi pour préserver les intérêts du peuple iranien. L'Iran a annoncé jeudi l'inauguration d'un nouveau terminal pétrolier pour exporter son brut à partir d'un port sur la mer d'Oman et non plus juste à partir du golfe Persique lors d'une cérémonie retransmise par la télévision iranienne. Démarrer l'exploitation de l'oléoduc de transfert de pétrole brut de Khorit à Jask d'une longueur de 1000 km et l'exploitation du terminal d'exportation de la région de Makran dans le port de Jask, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani dans un discours retransmis à la télévision. Cet oléoduc doit permettre à la République islamique d'Iran d'exporter du pétrole à partir de Jask sur le golfe d'Oman, ce qui permet aux navires citernes de gagner quelques jours de navigation par rapport au port pétrolier de Khar qui est dans le golfe Persique et d'éviter le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz qui relie le golfe Persique à la mer de Oman est une voie maritime par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial. Aujourd'hui est un grand jour historique pour la nation iranienne, a souligné le président Rouhani en expliquant que nos exportations de pétrole seraient coupées en cas de problème avant l'ouverture de ce nouveau terminal. Le président de la Chambre de commerce conjointe irano-chinoise a déclaré que le commerce avec ce pays n'avait jamais été affecté par les conditions politiques, ajoutant que la capacité commerciale annuelle des deux pays avant les sanctions était d'environ 60 milliards de dollars et une fois les restrictions levées, il sera facile d'atteindre ce nouveau chiffre. Le commerce de marchandises avec le monde a été l'un des défis les plus importants pour l'Iran après la révolution pour réduire la dépendance au pétrole et augmenter la production et l'exportation de marchandises dans le monde par le lancement d'un environnement concurrentiel. Pendant ce temps, certains pays achètent constamment des produits iraniens et au cours des dernières décennies, avec un peu de changement, ils ont été au premier rang du commerce avec l'Iran. La défense aérienne syrienne a abattu des missiles israéliens au-dessus de la province centrale de Homs à l'occasion de la deuxième agression de ce type de cette semaine, a rapporté Sana, l'agence d'information des Syriennes. L'ennemi israélien a mené une attaque aérienne visant plusieurs positions dans la zone de Ghusair, dans la province de Homs, a déclaré l'agence de presse de Syrienne Sana, citant une source militaire. Nos défenses aériennes ont intercepté les missiles en abattant la plupart d'entre eux, a ajouté la source précisant que l'attaque n'avait causé que des dégâts matériels. Moscou dit avoir des informations sur les liens entre les États-Unis et les terroristes en Afghanistan. La Russie a mis en lumière des connexions entre Washington et le groupe terroriste Daesh dans le nord de l'Afghanistan. Profitant du chaos, le groupe terroriste y est en pleine renaissance, alors que le retrait militaire américain doit s'achever en septembre. Un faisceau d'indices permet aujourd'hui d'afficher que Washington a coopéré avec des combattants de Daesh Daesh dans le nord de l'Afghanistan, a déclaré ce jeudi 22 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Nous avions beaucoup de questions sur les vols d'hélicoptères banalisés, enregistrés depuis 2017 dans les zones d'activité de Daesh, surtout dans le nord de l'Afghanistan. Selon les sources afghanes, les troupes de Daesh ont reçu par ce biais des renforts, des armes et des munitions. Des terroristes morts et blessés ont aussi été retirés des champs de bataille, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. L'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation à la suite de révélations selon lesquelles le Maroc aurait eu recours au logiciel israélien Pegasus pour espionner des responsables et citoyens algériens sur fond de tension entre les deux pays maghrébins sur la question du Sahara occidental. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation suite aux révélations faisant état de l'utilisation à large échelle par les autorités de certains pays et tout particulièrement par le Royaume du Maroc d'un logiciel d'espionnage dénommé Pegasus contre les responsables et citoyens algériens, a affirmé le ministère algérien des Affaires étrangères. Selon une enquête du consortium Forbidden Story, Amnesty International, des milliers de numéros de téléphones algériens, dont certains appartenant à de hauts responsables politiques et militaires, ont été recensés comme cibles potentielles du logiciel Pegasus commercialisé par l'entreprise israélienne NSO pendant l'année 2019, a affirmé le quotidien français Le Monde et le site d'information francophone Tout sur l'Algérie. 15 morts dans une nouvelle attaque dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans une nouvelle embuscade tendue par les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées sur le territoire de Beni dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon les autorités locales. Les rebelles ont également blessé 5 personnes alors que plusieurs autres de sont portés disparus, selon les mêmes sources, ajoutant qu'un véhicule de marchandises a été incendié par les assaillants lors de l'attaque. Et en Centrafrique, le gouvernement centrafricain dénonce la mort de 13 jeunes civils survenus près de Boussangoa, situé dans l'ouest du pays, a indiqué jeudi à Chinois. Son porte-parole, ministre de la communication et des médias, il a indiqué que les forces de défense et de sécurité déployées dans la région avec l'appui des forces russes se sont rendues sur place et ont ramené à l'hôpital de Boussangoa les corps sans vie ainsi que les blessés graves. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs et complices de ce crime odieux et de les traduire en justice pour qu'ils répondent de leurs actes. La troisième vague épidémique du nouveau coronavirus en Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, a estimé Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Alors que le taux de nouveaux cas a chuté de moins de 2% au cours de la dernière semaine sous l'effet d'une forte baisse en Afrique du Sud, 21 pays connaissent cependant une résurgence, a-t-elle averti lors d'une conférence de presse. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre beau commentaire politique. L'Iran relance un important projet énergétique, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le méga-projet de l'industrie pétrolière iranienne est devenu opérationnel malgré la guerre économique que mènent les États-Unis contre l'Iran. 95% des équipements de l'oléoduc Ghoreli-Jask ont été fabriqués par des experts iraniens. En dépit de faire face de 2 ans à une des guerres économiques les plus brutales, le projet de l'oléoduc Ghoreli-Jask, le plus stratégique de l'industrie pétrolière de l'Iran, a été réalisé en un temps record pour transférer le pétrole iranien vers les rives de la mer d'Oman, a déclaré Touraj Dehrani, PDG de la Société d'ingénierie et de développement pétrolier, lors de la cérémonie de l'exploitation officielle du projet. Le projet comprend un pipeline de 1000 km de 42 pouces, 5 stations de pompage, des stations bidirectionnelles, une station terminale, 20 réservoirs de stockage, 11 sous-stations et une ligne de transport de 300 km dans le secteur terrestre, a-t-il précisé. Le projet a pour objectif de transférer 1 million de barils de pétrole brut par jour de la région de Gorée, située dans la province de Bushehr, à destination de Jask, dans la province d'Ormuzgan, a-t-il affirmé en ajoutant. Avec 85% d'avancement dans la partie de onshore du projet de l'achèvement d'un milliers de kilomètres de pipeline, la station numéro 2 dans la ville de Dahran, 2 stations opérationnelles bidirectionnelles et une station terminale, ainsi que les sous-stations électriques connectées à ces stations, sont aujourd'hui pleinement opérationnel. Cette section est conçue dans un premier temps dans le but de transférer environ 300 000 barils par jour. La non-fourniture de tôle et de tuyaux en raison de sanctions économiques et du refus de parties étrangères de remplir leurs obligations a retardé jusqu'en 2019 la construction des tuyaux, a-t-il noté, tout en soulignant, mais grâce aux efforts fournis pendant 6 mois de coopération entre les partenaires techniques et d'ingénierie de la société d'ingénierie et de développement pétrolier et des entreprises nationales, des tuyaux acides à 100% iraniens ont été produits en juin 2019, un prélude à la fabrication d'autres équipements et installations nécessaires en Iran. La réalisation de 95% du projet par l'Iran est non seulement un moteur de relance pour d'autres industries connexes du pays, mais aussi l'exemple clair de la neutralisation des sanctions, a-t-il souligné. Toutes ces réalisations qui nécessitent une économie dynamique n'ont pu être concrétisées qu'avec les efforts continus de tous les spécialistes et experts qui y sont parvenus à un temps record, a-t-il indiqué en adressant ses remerciements au président iranien Hassan Rouhani. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder ces récents événements de survenus en Irak. Il y a quelques jours, une forte explosion à Bagdad, plus précisément à Sadr City, a laissé des dizaines de morts et de blessés. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué cet attentat terroriste, cette attaque terroriste et cette, en quelque sorte, réactivation du groupe terroriste Daesh intervient à un moment où, à l'intérieur de l'Irak, il y a cette
forte exigence pour en fait le départ, pour le retrait des forces d'occupation américaines du pays. Et cette exigence a été renforcée de plus en plus après en fait cette récente attaque américaine contre les positions de la résistance irakienne, si vous voulez, à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi est attendu aux États-Unis. En juillet, par les informations, il va aborder avec le président américain le retrait des troupes US de ce pays. Et d'autre côté, si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte, la résistance irakienne insiste sur en fait le fait que qu'elle va en fait poursuivre son combat jusqu'au retrait du dernier soldat américain du pays. Et pour cette émission de débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, depuis Toulouse, un spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Norostin. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et bonjour à vos auditeurs et à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortiguier, c'est une analyste franco-syrienne spécialiste des questions internationales, Mme Aïssar Midani, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Mme Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Bonjour à M. Dortiguier et à toute l'équipe de STV.
Merci beaucoup. Bonne fête à vous et bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Madame Midani, je viens de lancer le sujet commun et expliquez-vous, si vous voulez, ces récents événements survenus en Irak, très particulièrement cette récente attaque terroriste à Bagdad, plus précisément à Sadr City, attaque qui avait été revendiquée par le groupe terroriste Daesh.
Absolument. Alors, vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est une réactivation de Daesh en réponse aux exigences du peuple irakien pour le départ inconditionnel de l'ensemble des forces américaines du territoire irakien. Et cette exigence, elle a été bien affirmée à plusieurs reprises. Les Américains non seulement refusent, mais sans le dire, mais de toute façon, ils accentuent à la fois les attaques. On a vu qu'ils accentuaient les attaques sur les frontières syriennes, irakiennes aussi. Ils se sont attaqués aux forces de Hashd al-Sha'bi en tuant des dizaines de militants de Hashd. De la même manière, ils activent aussi, et ce sont non seulement les attentats de type Daesh aussi dans les grands souks et puis dans les grands marchés où il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, mais aussi j'ose penser aussi que l'attentat concernant les hôpitaux, les incendies des deux hôpitaux d'ailleurs, ils ne sont pas loin non plus des attaques terroristes, hein, voire juste pour mettre en fait les semences d'une guerre confessionnelle à l'intérieur de l'Irak. Mais j'ose penser aussi que l'ensemble de la population et l'axe de la résistance sont aussi très, très vigilants contre ces attaques. Alors je voudrais aussi signaler que ce n'est pas seulement en Irak que les attaques ont lieu, mais aussi contre tous les pays de l'axe de la résistance. Il y a une véritable escalade des Israéliens, en fait, de l'entité sioniste contre les Palestiniens. Il y a systématiquement, encore cette nuit ou la nuit dernière, des attaques contre la Syrie, des attaques israélo-américaines, en fait, parce que ce sont des avions israéliens qui partent de la base américaine d'Al-Tanf, qui est entre les frontières irakiennes et syriennes, et qui vont bombarder la ville de Sfera, qui est dans le sud d'Alep, où il y a des bâtiments du centre de recherche. Il y a aussi mais c'est sans arrêt des attaques, soit contre les aéroports, soit contre Mossad, soit contre. Donc, on voit quand même que tout ceci, c'est une véritable offensive israélo-sioniste, israélo-américaine, sioniste américano-sioniste en fait, et aussi des pays occidentaux, de l'OTAN, contre l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Donc aussi une accentuation de l'offensive saoudienne, voire en fait coalition américano-saoudienne, américano-israélo-saoudienne contre les résistants au Yémen, qui d'ailleurs remportent aussi de très grandes victoires d'ailleurs, malgré tout ça. Mais en fait, c'est une véritable agression caractérisée contre tous les pays de l'axe de la résistance, cherchant à maintenir au maximum et le plus longtemps possible la présence américaine d'une part, et servant au maximum aussi leurs alliés, ou peut-être je ne sais pas qui est l'allié de qui, mais en tout cas, leur protéger État sioniste de manière à ce qu'ils soient toujours présents et se défendant dans la région. Donc voilà, ça c'est. Mais je pense quand même que les derniers événements en Syrie, donc les élections. L'élection qui est absolument un événement grandiose de la participation de la population syrienne, en fait du peuple syrien, après 10 ans de guerre, et malgré toutes les propagandes contre le président Assad, malgré tout l'argent dépensé par l'axe de l'agression, si je peux dire, contre le président Assad, ce grand événement, une élection presque à plébiscite à 95,1% des voix, et le fait qu'il ait prêté serment récemment, donc le 17 juillet, et dans lequel il a bien annoncé que de toute façon, non seulement nous ne serons jamais à genoux, mais que de toute façon, il a annoncé une nouvelle étape dans la construction, mobilisant tout le monde pour libérer les initiatives de la construction, compter sur nos propres forces et puis redémarrer le pays, mais en gardant la tête haute et en toute souveraineté, et que bientôt, de toute façon, la totalité du territoire syrien va être libérée. Donc il a affirmé le soutien à la résistance populaire syrienne qui se fait dans les pays vers le nord-est, donc en contact avec la résistance irakienne, mais aussi au nord-ouest, donc appelant à renforcer la résistance populaire et les alliances avec les autres composants du front de la résistance. Donc en fait, tout ceci, ça a peur, en fait, ça crée une peur et une méfiance chez les Américains et les sionistes. C'est pour ça qu'ils réagissent en bombardant la Syrie et en réactivant les forces, la Syrie et l'Irak d'ailleurs, en réactivant les forces terroristes qui étaient d'ailleurs la création américaine, rappelons-le, est le prétexte pour que les Américains restent, soi-disant, ils restent pour combattre Daesh.
Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, est-ce que vous aussi, tout comme Madame Midani, vous estimez qu'il s'agit là en fait d'une volonté de vouloir réactiver les forces terroristes?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec notre interlocutrice. Il y a bien sûr un dessein américain de le faire, et un sorte de dépit, si je peux dire, devant le renforcement de l'axe de la résistance, Saddam Israël a très très bien et très éloquemment, je veux dire, exposé. Je ferai un rappel, disons, de ce qu'a fait, de ce qu'a été la coalition militaire qui a duré, je crois, à peu près presque 9 ans en Irak. Est-ce que celle-ci a éradiqué le terrorisme ou est-ce que celle-ci n'a au contraire favorisé justement les semences du terrorisme par tous les moyens, c'est-à-dire soit en brisant l'unité de la société irakienne, soit, disons, enfin, par tous les moyens qui ont fait que les agents comme Daesh et autres, ces sociétés ont pu, disons, trouver des militants. Je crois que c'est en ayant cassé l'Irak que, justement, le terrorisme dont on se plaint aujourd'hui en Irak a pu, disons, fleurir. Et on voit donc que cette arme du terrorisme n'est pas du tout un accident, mais elle est une constante dans cette guerre, on pourrait dire révolutionnaire contre révolutionnaire, cette guerre de subversion qui est menée en Orient, et cette guerre de subversion qui a commencé, Mme Misraël l'a dit très bien, avec évidemment la naissance d'entités sionistes, etc., dont on peut se demander, qu'on a très très bien dit, je m'excuse de réciter toujours, mais on se demande de qui, bien sûr. C'est une sorte de roue infernale. Et je crois quand même qu'il faut retenir de façon positive, si j'ai pu dire, malgré le spectacle de ces victimes, que cette réaction terroriste est une réaction devant la défaite, justement, de ceux qui comptaient écraser la Syrie, écraser l'Irak, écraser ou désespérer, disons, tout mouvement de résistance, y compris en Palestine. Je crois que l'arme du terrorisme est une arme qui est, disons, coutumière à ces forces-là. Je poserai la question, comment l'entité sioniste dont on parle s'est-elle constituée? N'est-ce pas par le terrorisme?
Monsieur Dortiguier, est-ce que vous aussi, tout comme Mme Midani, vous estimez que là, il s'agit d'une offensive israélo-américaine?
Oui, bien sûr, car, disons, je dirais que, oui, bien sûr, ce sont des offensives, disons, qui tiennent non pas du tout à des considérations seulement militaires, mais qui tiennent à des considérations comme une subversion, c'est-à-dire l'usage, justement, du terrorisme. L'usage du terrorisme est une arme à la fois matérielle, politique et démoralisatrice. Elle consiste, disons, à frapper de façon aveugle et par là même à, disons, neutraliser la population. C'est-à-dire, justement, Mme Israël a très bien dit que un événement considéré était le grand succès de la mobilisation syrienne autour de son État et de son chef. Et ceci, justement, ne peut pas, disons, provoquer des contre-offensives, bien sûr, de la part des forces américano-sionistes. Mais, disons, leur seule arme, c'est la démoralisation. C'est-à-dire continuer la guerre, à la fois pour pouvoir maintenir la misère, bien sûr, mais également faire perdre confiance dans les chefs, dans la politique aux populations, voyez-vous. C'est-à-dire, finalement, non pas les dresser tant contre leur État que de les rendre indifférentes à l'action de l'État. Et je crois que c'est l'arme des faibles, disons. Je dis bien que c'est l'arme des faibles parce que devant la force des peuples, évidemment, ce sont seulement des hypocrites ou des gens qui se déguisent avec de façon ou d'une autre qui peuvent, disons, vouloir l'imposer. Mais je crois que le voyage là, du Premier ministre irakien aux États-Unis sera justement sur arrière-plan, disons, voyez, de cet attentat. Et je crois que c'est une manière d'exercer aussi une pression sur lui, car évidemment l'administration de M. Biden, comme l'administration de M. Bush, mais de M. Bush, de M. Trump, mais disons, peut-être de façon plus acide, disons, est évidemment entre les mains de ces forces qu'on appelle américano-sionistes, bien sûr, et donc je crois qu'il faut que les Irakiens s'attendent, évidemment, à avoir affaire à un adversaire beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient.
Madame Midanit, en fait, cette réactivation du groupe terroriste, des forces terroristes, que ce soit en Irak, en Syrie, au Yémen, également ces agissements de, consistant aussi à déstabiliser de plus en plus et le Liban, tout cela ne va pas, d'après vous, rendre, si vous voulez, l'axe de la résistance, le peuple, si vous voulez, de ce pays, de plus en plus déterminé à poursuivre, si vous voulez, leur bataille et obtenir, si vous voulez, le départ des forces d'occupation.
Absolument. En fait, ça ne fait qu'augmenter la détermination des peuples à se libérer, de l'ensemble des peuples de l'axe de la résistance à se libérer et à améliorer, en fait, la coordination entre les différentes composantes de, la, de cette résistance. Je voudrais rendre hommage au général Qassem Soleimani que les Américains ont et au général aussi Al-Mohandes que les Américains pensaient en ayant assassiné de manière complètement vile et sale, je dirais. Ils pensaient quand même en faisant ça qu'ils allaient arrêter toute résistance. Or, dans la réalité, cet assassinat criminel, en fait, a mobilisé 10 fois plus les troupes, et on disait que de toute façon, même déjà à ce moment-là, s'il y a un Qassem Soleimani qui tombe, il y a des milliers qui vont relever le flambeau, et de la même manière, s'il y a Abou Mahdi al-Mohandes qui tombe, il y aura des milliers et des centaines de milliers qui relèveront le drapeau. Et ça, c'est la réalité, en fait. Quand il y a un résistant qui tombe, il y en a d'autres, des milliers d'autres qui relèvent le drapeau et qui continuent la lutte parce qu'ils ont fait école, en fait, de résistance et ils ont effectivement initialisé cette, non seulement au niveau de la résistance militaire, si vous voulez, mais ils ont initialisé une idéologie de résistance et une volonté d'indépendance et de souveraineté qui ne pourra pas être, qui ne pourra jamais cohabiter avec des demi-mesures et des oui et non comme comme les Américains voudraient, parce que depuis longtemps ils prétendent vouloir se retirer, mais ils restent quand même, ils laissent des quantités, un nombre important de leurs troupes dans l'ambassade, soi-disant des conseillers, n'est-ce pas? De la même manière, en fait, en même temps d'ailleurs, ils font venir énormément de munitions et de seulement d'armes, même d'armes lourdes, en fait, des chars, des blindés, etc., en Syrie, à leurs alliés Qassad, les FDS, qui sont rien que leurs laquais, et qui sont habitués, en fait, qui continuent à agresser la population. Ils continuent aussi, les Américains continuent à augmenter leurs effectifs dans les bases Al-Tanf, dans la base autour des puits de pétrole Omar et Conoco. Et aussi, ils continuent aussi à piller le grain syrien, le coton, etc., toutes les récoltes, aussi dans la région, tout en se battant, tout en attaquant l'armée syrienne et la résistance irakienne, et aussi la résistance, leurs laquais et leurs valets, Qassad. Ils envahissent les maisons, ils arrêtent les résistants et ils essayent de les enrôler de force dans leurs troupes et ou alors les kidnapper pour les amener ailleurs. Alors on voit aussi d'un autre côté l'utilisation de ces troupes de Daesh et des mercenaires qui sont liés à la fois aux Américains mais aussi aux Turcs, disons-le. qui sont aussi dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, il y a un travail aussi de recyclage de tous ces Daesh qui ont été battus, qui ont été vaincus, etc. Ils les réentraînent, ils les kidnappent et ils les emmènent à la base Al-Tanf où ils subissent des entraînements importants et après ils sont recyclés. Une partie en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en
Libye. Merci beaucoup.
Et ça continue. Donc en fait, c'est les Américains, les quelques bases américaines là qui sont dans la région en Irak, en Syrie, deviennent vraiment une plateforme tournante de fabrication de terroristes qu'ils envoient partout pour attaquer le monde entier. Donc,
merci beaucoup.
Et ça, c'est vraiment l'outil des Américains.
Monsieur Dortiguet, venez d'entendre les explications de Madame Midani, en fait, et de cette réactivation des terroristes, que ce soit en Irak, en Syrie, au Yémen. Madame Midani vient de faire allusion également à l'Afghanistan. C'est un projet bien calculé.
Oui, en effet, c'est un projet très bien calculé. Je veux dire que nous ne pouvons que féliciter vraiment de tout cœur Mme Misani de ce tableau qui est vraiment bien réel et bien saisissable de tous. Il s'agit là, bien sûr, d'un plan qui s'exécute, qui est ancien et qui se maintient. Et je crois que grand intérêt de ce que vient de nous dire Mme Misani, c'est de montrer qu'il y a non seulement un faux départ américain, si je puis dire, mais en même temps un investissement américain dans l'Américain et sioniste, bien sûr, dans cette guerre qui est large, qui n'est pas seulement une guerre de Syrie, qui n'est pas une guerre d'Irak, mais qui vise l'ensemble de l'Orient, et leur but, ce n'est pas simplement de faire tomber un État, leur but est aussi de maintenir tous ces pays dans une insécurité constante. C'est une sorte de guerre, si je puis dire, révolutionnaire, mais dans le sens, disons, des forces obscures. Vous savez, on peut dire le diable aussi ses révolutions. Eh bien, là, je crois que nous sommes dans l'exécution d'un plan ancien, d'un plan mûri. Et je dois dire qu'il faut prendre cette image que donnait Mme Misani de fabrication de terroristes, voyez-vous, comme un laboratoire où ils les fabriqueraient. Exactement, il faut le prendre à la lettre.
Merci beaucoup.
Et alors, c'est tout ce que je peux dire.
Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Mme Aïssa Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui.
Depuis
merci. Depuis Damas. Merci beaucoup pour cette présence. Cette fois-ci, vous êtes à Damas. Merci beaucoup. Depuis Damas, Madame Midani. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Organisation de coopération de Shanghai, la Russie appuie la pleine adhésion de l'Iran. Moscou soutient l'intégration de la République islamique d'Iran en qualité de membre de plein droit de l'Organisation de coopération de Shanghai. La dite intégration appuiera de son côté la montée en puissance de la grande structure internationale eurasienne, devenue désormais la force motrice de la véritable notion de communauté internationale et du monde multipolaire. Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, qui préside cette année les activités de l'OCS, a accueilli une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. Lors de cette réunion, la délégation russe a appelé à un examen positif de la demande d'adhésion de l'Iran en qualité de membre à part entière au sein de l'organisation. Pour rappel, l'Iran est actuellement membre observateur au sein de l'OCS. Pour la Russie, l'importance et le rôle de l'Organisation de coopération de Shanghai découlent de son caractère inclusif. Nous sommes convaincus qu'il est grand temps d'examiner positivement la demande d'adhésion de l'Iran au sein de l'organisation en qualité de membre de plein droit qui est sur la table depuis 2008, ont déclaré des sources compétentes au sein de la délégation russe. Toujours selon eux, le critère principal pour prendre la décision appropriée doit être la volonté réelle du demandeur d'apporter une contribution effective et concrète au renforcement qualitatif de l'OCS afin de contribuer à accroître son autorité internationale en phase avec les processus qui se déroulent sur le continent eurasien. Le soutien affirmé de Moscou en faveur de Téhéran dans le cadre de la pleine intégration à l'OCS confirme plusieurs aspects. Tout d'abord, on peut effectivement parler d'une relation de confiance entre les deux pays, et ce, aussi bien dans le cadre relationnel bilatéral que multilatéral, notamment en ce qui concerne les activités du triumvirat Russie-Chine-Iran. D'autre part, la pleine adhésion de l'Iran au sein de l'organisation représentant la grande famille eurasienne dont il fait indéniablement partie apportera de nombreux éléments positifs, aussi bien pour lui-même que pour l'organisation dans son ensemble. Sur le plan démographique, un pays avec une population de près de 85 millions d'habitants viendrait donc s'ajouter à la population totale des pays membres de l'OCS, comptabilisée aujourd'hui à près de 3,4 milliards d'habitants, avoisinant ainsi la moitié de la population mondiale. Pour rappel, l'organisation étant actuellement composée de la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, tous depuis 1996, l'Ouzbékistan depuis 2001, ainsi que l'Inde et le Pakistan, tous deux depuis 2017. Les États observateurs étant en plus de l'Iran, la Biélorussie, la Mongolie et l'Afghanistan. Sur le plan économique, la pleine intégration iranienne ouvrira de nouvelles perspectives d'interaction au sein des pays membres de l'OCS, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, y compris dans des domaines comme l'énergie ou les grandes routes logistiques eurasiennes, devenant de plus en plus des routes d'envergure mondiale. Pour rappel, l'OCS compte 3 pays faisant partie du top 10 des principales économies mondiales en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat. La Chine, première du classement mondial, l'Inde qui est 3e et la Russie qui est 6e. L'Iran, quant à lui, est classé aujourd'hui 23e au niveau mondial et ce malgré des années de sanctions, des pressions et des tentatives de déstabilisation occidentale le visant. Évidemment, l'adhésion de l'Iran en qualité de membre à part entière sera un apport également stratégique sur le plan sécuritaire pour l'organisation. Surtout au vu des défis qui existent dans les affaires régionales, y compris eurasiennes, en raison d'une politique irresponsable de l'establishment occidental. L'Iran a déjà pleinement démontré quant à sa ferme capacité non seulement de riposter face aux agressions et interférences extérieures, mais également en ce qui concerne une politique régionale efficace et responsable, notamment dans le cadre de son expérience dans la lutte antiterroriste, comme ce fut le cas en Syrie. Cette capacité et ce savoir-faire de Téhéran sera un atout indéniable aux capacités défensives de l'Organisation de coopération de Shanghai, comptant en son sein 4 des 10 principales puissances militaires du monde. Par ailleurs, les 4 pays en question, la Russie, la Chine, l'Inde et le Pakistan, étant également des puissances nucléaires. L'Iran est de son côté, donc tout simplement, l'actuelle 14e puissance militaire mondiale. le soutien stratégique de la Russie à l'Iran dans le cadre de l'OCS ainsi que certainement de la Chine, autre allié privilégié de Téhéran, représente donc en soi-même un cadre stratégique global pour toute l'organisation de coopération de Shanghai, le grand espace eurasien et plus généralement parlant pour tout le concept multipolaire mondial devenu réalité et ne cessant de se renforcer chaque jour un peu plus.